Ça bouillonne dans les tripes avec l'audace de l'évidence, l'envie que ça change. Mais c'est quoi ça? C'est là, autour de nous, parfois loin, souvent au coin de la rue. L'injustice, la violence, l'intolérance, les inégalités. Certes, il n'y a pas d'âge pour se révolter, mais qui mieux que les adolescents pour faire bouger les choses?
Le monde est à nous. Cerise Maréchaux, Alice Milot.
S'engager pour demain, c'est le combat que l'on porte aujourd'hui dans Le Monde est à nous. Bonjour à tous, bonjour Alice.
Salut Cerise.
Ils ont la fougue de tous les possibles, la sensibilité exacerbée, l'instinct de rébellion qui frise l'insolence parfois, mais tant pis car il en faut pour s'indigner. Tout l'été, chaque dimanche, deux jeunes de 15 à 25 ans nous ouvrent les portes de leur monde sur RFI et ce soir, c'est Pia et Mitou qui prennent la parole. Elle a 18 ans et c'est seule qu'elle a quitté son pays, le Bangladesh, pour la France en 2015. Mitou, tu es notre invitée du jour. Bonjour.
Bonjour.
Ce voyage, Mitou, de l'Asie à l'Europe, tu l'as fait seule pour étudier, mais aussi pour être plus en sécurité, à l'abri des représailles liées aux convictions politiques de ta famille. Alors, arrivée avec le statut de mineur isolé, tu es ensuite pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, et puis tu as rejoint les bancs du lycée Charles de Gaulle à Paris, dans une classe spéciale pour les primo-arrivants. Ton sens de l'engagement, tu l'as aiguisé l'année dernière, avec un projet scolaire autour des droits de l'homme, mais pour le moment, tu n'en es pas encore à brandir le mégaphone, tu poursuis juste ta vie d'adolescente et c'est déjà pas mal. Longs cheveux bruns, minois souriant, vernis jaune et henné sur les mains, Mitou vit en coloc avec sa meilleure amie guinéenne au sud de Paris et c'est bien loin du petit village de Pia Cerise.
Oui, Pia, 15 ans, grande et effrontée, qui a mobilisé son village de Franche-Comté pour aider des migrants et réfugiés. À Lavigné, 120 habitants, à une heure de Besançon, dans l'est de la France, sa famille et leurs voisins ont formé un collectif pour accueillir à tour de rôle des personnes de tout pays. Ce week-end, Altom et Amir, deux jeunes soudanais de 24 ans, rendent visite au village. Au Soudan, ils ont subi la prison et la torture pour des raisons politiques. Aujourd'hui, malgré la douleur de l'exil, la vie est plus douce ce samedi dans la famille de Pia.
Hippolyte, filez-moi, vous voulez mettre la table? Non, c'est... s'il vous plaît.
Et donc, ça fait... comment ça s'appelle ton plat soudanais, Altom?
Ça? Ouais, Guima.
Donc, il y a quoi dedans?
La patate, de carottes, et du riz, du poulet.
Et du poivron.
Ça sent bon.
Ouais.
Donc, ouais, merci.
Là, Altom et Amir, vous êtes dans le village pour quelques jours?
3 jours, oui.
Oui, on n'a jamais fait. Je crois que le plus gros accueil qu'on fait, c'est 2 semaines. On fait vraiment très ponctuellement parce que c'est plus facile. On est en milieu rural, donc on n'est pas à disposition de toutes les grandes villes, ni rien. Donc on n'a pas forcément une position géographique très intéressante pour les migrants. Mais c'est vraiment plutôt pour les vacances, pour prendre un peu l'air de la ville. C'est vraiment dans ce but-là, et puis dans le but de la rencontre avec les migrants et tout.
C'est mieux pour nous. Ouais, on apprend français, ça...
Vous parlez pas beaucoup français à Besançon?
Ouais, ouais. On est trop, les gens parlent arabe, soudanais, algérien, tunisien, c'est tout. C'est pour ça. Mais ici, y a personne qui parle arabe. C'est obligé de parler français.
On a accueilli une famille albanaise, donc avec Julia. Ensuite, on a accueilli, elle était congolaise, avec Fanny et ses enfants. Après, on a accueilli Shoira du Kazakhstan.
Kazakhstan, oui.
Avec ses filles.
Donc ça, c'était dans votre famille?
Non, pas forcément dans notre famille, dans tout le collectif. Mais parce que ça tourne.
Les choses s'organisent assez de manière souple, quoi. Plus on est, plus c'est léger. Voilà, donc c'est assez pratique.
Altom et Amir, ils viennent d'où?
Alors, du Soudan, c'est ça?
Ouais, petit village, comme ici.
Et du coup, on a accueilli Altom et Amir, et puis après, la relation elle s'est construite toute seule.
Aujourd'hui, vous avez des papiers pour rester en France?
La carte de séjour.
Ouais. Je comprends.
Toi, t'as quoi? T'as la carte de séjour? T'as la carte de séjour, et toi, t'as quoi?
Non.
T'as pas encore la carte
pas
de
encore,
séjour?
Pas encore, ouais, pas encore. J'attends.
T'as fait des... C'est quand t'as fait ta demande?
Un an.
Un an
et 3 mois.
T'es passé à l'OFPRA?
Oui.
C'est l'Office français pour les réfugiés et apatrides.
En fait, c'est là où ils font une espèce d'interview et c'est vraiment un moment décisif, en fait. Et du coup, c'est long d'avoir la réponse. Ça va de 6 mois à 1 an et demi. Quand ils reçoivent la lettre et tout, c'est un peu stressant pour eux, je pense. Moi, je me posais beaucoup de questions l'année dernière et je trouvais pas ça normal qu'on regarde la télé sans rien faire, tous les migrants qui arrivaient en France. Et là, je me suis dit que j'avais vraiment envie de travailler sur tout ce qui était les droits des migrants. J'aime beaucoup cette ambiance-là et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me plaît.
Qu'est-ce que tu aimes dans cette ambiance ?
Alors, tout ce qui est les droits, toujours trouver une solution, se battre, essayer de les aider un maximum comme on peut et tout, je trouve ça vraiment super intéressant. Et on entend souvent des choses, tout ce qui s'est passé à Calais et tout, je pense qu'on a parlé beaucoup en mal des migrants, mais on n'a pas du tout parlé en mal des organisations, ou plutôt du maire de Calais qui a vraiment très 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 mal géré les choses.
Pourquoi vous vous foutez de ma tronche?
C'est pas bien ce que je dis.
C'est que t'as des responsables légaux à la maison.
Ben après, c'est pas mon problème.
À un moment, on a envie de continuer à être tranquille, d'accord ?
Ben, il y a des choses quand même qu'il y a eu des. En France, on a déjà demandé qu'ils annulent la loi de Dublin et ça n'a jamais été fait.
Juste un petit rappel de la loi de Dublin dont tu parles ?
Oui, alors la loi de Dublin, c'est par exemple, un migrant, il va arriver dans l'espace Schengen et il va déposer son empreinte. Et quand il dépose son empreinte, il doit faire toutes les démarches administratives dans ce pays. Et souvent, les migrants, ils sont pas, on leur a pas expliqué qu'ils devaient faire toutes les démarches dans ce pays-là. Donc, ils vont, par exemple, en France, en Allemagne, faire leurs démarches administratives. Et ça bloque parce que les données sont enregistrées dans un autre pays. Il faut retourner dans le pays où on a fait la demande, donc c'est assez compliqué. Ils ont fait des promesses aux juristes, à tous les gens qui travaillaient avec les migrants et ça n'a jamais été fait. Et je pense que, il n'y a pas une remise en cause que des migrants. Je pense qu'il devrait avoir une remise en cause de tout le monde. Je pense qu'on n'entend pas assez parler et du coup on nous enferme peut-être, on nous met des œillères pour pas qu'on voit. Et je pense qu'on devrait déjà ôter les œillères et puis regarder un peu autour de nous.
Toi, tu as quitté le Bangladesh toute seule en 2015 pour vivre en France. Comment as-tu été accueillie par les Français quand tu es arrivée ?
Au début, quand je viens d'arriver, je suis accueillie par un monsieur, la personne qui m'a ramenée ici. C'était un monsieur bengali. Et le lendemain, il m'a ramenée le bureau de l'aide sociale à l'enfance.
Avec les équipes de l'aide sociale à l'enfance ?
Oui, c'est ça. Et après, on m'a conseillé d'aller avec eux à la commissariat de police à Jaurès. Et les polices, on m'a ramené dans un foyer d'urgence. J'ai resté une semaine. Et une semaine après, je suis revenue dans ce bureau de l'association. Et on m'a accueillie dans un hôtel à Pigalle, qui est un quartier très compliqué.
Tu étais toute seule dans cet hôtel ?
Dans cet hôtel, non. Le premier jour que j'ai raconté ma copine... La fille qui est guinéenne.
Avec qui tu vis actuellement?
Oui, c'est ça. Et le même jour, on était accueillis dans cet hôtel.
Et tu as déjà eu une expérience dans une famille française, une famille d'accueil?
Non.
Est-ce que ça t'aurait plu? Comme là, dans le reportage, on entend Altom et Amir qui sont dans cette famille, qui partagent des repas.
Oui, bien sûr. Je pense que c'est vraiment touchant. Maintenant, j'ai une marraine. C'est une association qui donne des familles pour aller pendant les vacances ou, et après, je me suis rencontrée avec une dame qui est française et belgique.
Et, cette femme, elle est franco-belge?
Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est ma marraine.
C'est ta marraine, ça veut dire quoi? Quelle relation vous avez?
Normalement, il n'y a pas une relation avec papy et tout, mais juste, elle voudrait bien, de parler avec moi de temps en temps pour se voir, boire un verre ou aller chez elle pour manger avec elle. Après, il y a plusieurs éducateurs qui j'aime bien. Quand je me sens pas trop bien, je parle avec eux et tout. C'est comme la famille. Je me sens ici comme la famille.
Mitou, je reprécise que Pia, qu'on a entendu dans le reportage, est à l'initiative de cet accueil des migrants dans son village. Est-ce que ça t'étonne que Pia, qui a seulement 15 ans, donc 3 ans de moins que toi, elle soit déjà aussi engagée auprès des migrants?
Oui, je trouve que c'est une fille vraiment courageuse et je vais lui dire bravo à elle. Et ça m'encourage aussi beaucoup parce que j'aime bien comme elle. J'ai une cœur de aider les personnes, mais en fait, j'ai pas le moyen. Mais je pense toujours à aider les gens, ce que j'ai
autour de toi.
Autour de moi, voilà. All along it was a fever.
De Rihanna, vous êtes sur RFI dans Le Monde est à nous, l'émission qui donne la parole aux jeunes tout l'été. La parole, c'est très important, bien sûr, mais quand il s'agit d'engagement, ce qui compte avant tout, ce sont les actes. Et justement, Pia, 15 ans, adolescente de Franche-Comté dans l'Est de la France, aime le concret. Au printemps 2016, elle n'avait alors que 14 ans, elle a réussi à mobiliser une quinzaine de personnes dans son village de Lavigné pour former un collectif et accueillir des personnes migrantes et réfugiées. Parmi ceux qui ont répondu à l'appel de Pia, sa voisine Hélène et sa petite-fille Mathilda, chez qui nous sommes tous allés, avec Altom, réfugié soudanais.
Bonjour. On est au jardin d'Hélène. On est dans sa grande maison.
Et donc là, à travers une baie vitrée, on aperçoit Altom qui s'est déjà installé pour... Alors, atelier coiffure.
Bah, Altom, il me fait les pointes.
Bonjour. Toi, tu t'appelles comment ?
Mathilda.
Ça va, Altom ?
Oui.
Tu es concentrée ? C'est le métier que tu faisais au Soudan ?
Oui. Mais au Soudan, il fait juste les hommes.
Ah oui ?
Oui.
Et donc dans le village, c'est... même si tes parents étaient déjà sensibles à cette thématique, à la cause des migrants, c'est vraiment toi qui as bougé les gens, qui as fait naître ce mouvement
essayé,
d'accueil.
Ouais, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Alors c'était plutôt au moment où mes parents ils étaient d'accord de s'engager... Mais ils voulaient vraiment qu'il y ait des gens autour pour soutenir, pour créer un collectif, du coup.
En fait, tu as conçu un questionnaire, un quiz.
Voilà, oui, c'est ça.
Très pragmatique, oui. Pour demander aux gens s'ils étaient capables d'accueillir.
Voilà, c'est ça, oui.
Tu peux me lire donc les exemples de questions ?
Alors, es-tu d'accord de libérer une chambre ou un espace dédié aux migrants ? Es-tu prête à transporter pour diverses raisons les migrants à Vesoul, à Besançon ? Es-tu prête de consacrer du temps aux migrants ? Si oui, combien ? Pourrais-tu enseigner ton travail, ta passion ou bien faire découvrir le patrimoine ? Serais-tu prête à partager des repas avec les migrants ? Si oui, combien par semaine ? Serais-tu prête à t'investir dans cet accueil ? Si oui, à quel degré ? Donc voilà.
Donc tu as préparé ce questionnaire et ensuite qu'est-ce que tu as fait ? Tu es allée voir les gens ?
Voilà, oui.
En personne, tu as appelé ?
Oui.
Comment tu as fait ?
J'ai fait du porte-à-porte au début, puis après, les gens que je n'avais pas réussi à avoir au porte-à-porte, j'ai appelé. Et. Du coup, on a constitué, on était une petite dizaine au début.
Comment, est-ce que tu te rappelles de la première réaction du voisinage que tu es allé voir ?
Alors,
d'abord, ceux que tu as vus en personne.
Alors, ça dépend. Il y aurait des gens qui m'ont regardé avec des grands yeux. Et il y a des gens comme Hélène qui m'ont demandé des nouvelles assez rapidement, qui, je pense, qui étaient assez. Qui voulaient assez s'investir dans ce projet.
Hélène, est-ce que vous pouvez me raconter. Quand et comment Pia vous a sollicité pour aider les personnes migrantes ?
Eh bien, c'était il y a 2 ans, il me semble. On a reçu un email, le quiz, tu l'avais envoyé par mail. Et puis doublé d'une visite, puisqu'on se voit quand même souvent. Pia, elle a son âne qui est en pension chez nous, donc on la voit quand même passer très souvent. Et puis quand on a reçu ce mail, moi c'est quelque chose que j'avais pas engagé, de me poser la question, ne serait-ce que de me poser la question de l'accueil de migrants, parce que j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps, et puis je me demandais comment j'allais libérer du temps pour ça.
Vous êtes agricultrice.
Voilà, c'est ça, je suis maraîchère, donc en saison c'est très prenant. Et puis bah, il y avait la notion de faire partager son métier aussi. On s'était dit pourquoi pas pour des personnes, des migrants qui viendraient de milieux ruraux et qui se retrouvent complètement en ville, dans des nouveaux environnements et qui aimeraient retrouver un peu le contexte rural. Ça peut être des bonnes solutions. Et puis la proposition de gérer ça en collectif. Tout de suite, on s'est dit bah oui, ça rend possible pour chacun. Si chacun fait un petit bout, bah, on va pouvoir le faire tous ensemble. Et puis on a tout de suite dit oui à Pia, on a fait des réunions, on a commencé des réunions, et puis on s'est engagé dans un premier temps avec des familles avec enfants qui n'avaient pas leurs papiers, mais qui trouvaient un souffle de venir, qui étaient un peu à Besançon, accueillis déjà dans des familles, mais qui avaient besoin de prendre des temps de week-end dans des environnements plus tranquilles quand même par rapport aux villes. Et donc, voilà, on a commencé l'expérience comme ça, et c'était vraiment chouette.
Ouais. Les accueils ont commencé l'été dernier ?
Eh ben, au printemps dernier. Printemps, dès les vacances d'avril 2016, on a commencé à accueillir une première famille avec trois enfants. On les a réaccueillis sur une semaine pendant les vacances d'été. Puis après, on a accueilli d'autres familles, 3-4 en tout. Et puis là, il y a le Secours catholique qui nous a proposé ce parrainage, l'idée de parrainer des jeunes plutôt célibataires.
Donc, le cas de Altom et Amir.
Et Amir, voilà, et qui nous permettait d'investir aussi sur le long terme, c'est-à-dire qu'ils viennent plus. Les familles avant avec enfants, c'était plus ponctuel. Ils attendaient leurs papiers, donc ils étaient aussi dans des états de stress. L'accueil était vraiment différent. C'était des personnes en souffrance parce qu'ils n'avaient pas leurs papiers, ils ne savaient pas s'ils allaient rester en France. Altom et Amir, on sait maintenant qu'ils ont leurs papiers, qu'ils vont rester un certain temps. Et donc, on essaie de construire des choses sur le long terme. Et puis, Altom, il est venu la première fois en mars. Et il a vraiment bien apprécié travailler ici avec moi. C'était très sympa. Tout de suite, il s'est adapté à travailler au jardin et être avec nous en famille aussi. Il a logé chez nous la première fois qu'il est venu, et c'était vraiment une belle rencontre.
À travers l'expérience de Pia et ses voisins, on découvre l'entraide citoyenne. Mais évidemment, cette aide arrive souvent en complément de l'aide de l'État. Toi, Mitou, tu as 18 ans, tu viens du Bangladesh. Tes premiers contacts, c'était avec l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, un organisme public. Tu as aussi reçu de l'aide à l'école, où tu as été reçu dans une classe UPE2A, une classe d'accueil, pour d'abord bien apprendre à parler le français. Comment ça s'est passé pour toi, cette année de transition ?
J'étais vraiment contente d'aller dans un lycée professionnel et à classe d'accueil. J'ai fait des amis qui viennent de Maroc, Algérie, Kabylie, après Mali, Soudan aussi. Il y avait 15 pays différents. Et moi, je viens du Bangladesh. On a appris beaucoup de choses. En fait, c'est une classe d'accueil. En même temps, c'est comme quatrième préparation d'aller dans un lycée professionnel ou CAP ou pour passer le bac pro.
Où tu es actuellement, puisque maintenant tu es en CAP hôtellerie restauration, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Mais ce qui est impressionnant, Mitou, c'est que donc tu as appris vraiment très très vite le français. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton quotidien quand tu t'es mis à être très familière avec cette nouvelle langue ? Est-ce que ça a été plus facile pour toi ?
Au début, c'était un peu difficile, mais moi j'ai commencé à jouer avec cette langue. Je suis tombée amoureuse de cette langue. Mais où il y a des gens bengalis, je parlais pas parce que j'aimerais bien parler très vite, très rapide.
Tu as vraiment fait français. L'effort de te oui. concentrer sur le français pour oui. pour être immergé dans la langue.
Oui, bien sûr. Quand je commençais à apprendre le français, j'arrive à m'exprimer ce que je veux dire. Ou sinon, dans la rue, par exemple, je rencontrais quelqu'un et peut-être il me demande d'aide ou la personne il veut me parler, mais si je parle pas. Je peux pas parler ou je peux pas faire la connaissance avec eux. Et c'est pour ça, ça m'encourage d'apprendre vraiment français. Comme ça, je peux parler avec les gens. Je peux avoir plusieurs amis.
Restez avec nous. MeToo et Pia continuent de réveiller nos consciences sur RFI. Le monde est à nous revient juste après Flash dans 3 petites minutes.
Ah. puisqu'on en est aux confidences de jeunesse, je vais t'en faire une de confidence.
J'écoute.
Le monde est à nous. Cerise Maréchaux, Alice Milot.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans Le Monde est à nous, l'émission qui chaque dimanche de l'été tend le micro aux jeunes. Et même si vous avez plus de 25 ans, vous avez bien fait de nous rejoindre. S'engager pour demain, c'est notre cause commune aujourd'hui sur RFI. Qui a dit que l'adolescence rime avec indifférence? Eh bien nous, au contraire, nous pensons que les jeunes sont très bien placés pour changer ce qu'ils refusent dans ce monde qu'ils connaissent finalement parfois mieux que nous, puisque eux sont viscéralement ancrés dans leur époque. C'est justement le cas de Pia, 15 ans, qui vit en Franche-Comté et qui a mobilisé tout son petit village pour aider des migrants et réfugiés. Énergie de l'espoir, bonsoir.
Maman ?
V par 3 ?
Altom, tu veux une veste ou quelque
non,
chose ?
C'est quoi ?
C'est vrai ?
Oui.
Amir, tu as ? C'est bon ?
Non, ça va.
Bon, allez, c'est parti.
Là, c'est la maison de tes grands-parents, non ?
De la maman de mon grand-père.
Il y a combien d'habitants dans ton village ?
Il y a combien d'habitants dans le village, papa ?
100, mais il y en a plein qui sont morts, donc ça fait un peu moins.
Il n'y a pas beaucoup de naissances. Hein.
Là, ce bâtiment, c'est quoi ?
C'est la brasserie de mon papa. Ouais, je vais préparer une tarte tout de suite.
Tu me prépares
une
carton, s'il te plaît ?
Tu prends en
fait. Tu laisses sous mon
bec. Ça y est, Altom, c'est déménagé. Attends, il, est venu m'aider à faire la brasserie.
C'est trop belle.
C'est trop belle.
Et là, ben, c'est la traversée, une bière porteuse d'espoir. C'est une bière solidaire. Quand on achète la traversée, il y a 2 euros qui repartent à l'association SOS Méditerranée. SOS Méditerranée récupère les migrants qui font leur traversée, du coup, et les sauve.
Donc ça, c'est un projet que tu as monté avec 4 autres jeunes.
Oui, Iska, Rose, Gaspard et Malika.
D'accord. Et vous avez tous à peu près le même âge ?
Alors, on s'étend de 14 à 16 ans.
Plutôt jeune ?
Oui.
Et donc vous, les recettes de la bière La Traversée, elles visent à financer cette association ?
Voilà. Faire fonctionner le bateau, toutes les équipes médicales, les équipes du bateau... La nourriture, les soins, les canots de sauvetage, les gilets de sauvetage, voilà.
Et alors ta maman m'a soufflé que toi et le collectif d'ados que tu as fondé, vous avez contacté SOS Méditerranée pour monter à bord du bateau ?
Oui.
De l'Aquarius ?
Oui. Déjà c'est très compliqué de monter, déjà les journalistes c'est déjà compliqué. Alors des adolescents, c'est encore plus compliqué.
Tu pourras peut-être retenter ta chance plus tard.
Je suis encore jeune, donc oui, j'ai encore. Je pourrais essayer de postuler pour monter à bord du bateau s'ils ont besoin d'un service civique ou qu'ils cherchent une personne pour un petit job.
Quand tu seras en âge de faire ton service civique ?
Oui.
C'est à partir de quel âge ?
Je crois que c'est 18 ans.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la mobilisation de Pia, qui n'a que 15 ans et qui est déjà très investie dans l'aide aux personnes migrantes et réfugiées ?
Nous, on a été bousculés au début. Enfin, au début, c'était... Quand Pia a évoqué l'accueil, ou en tout cas le soutien, et d'accueillir une famille en urgence, on a longtemps repoussé en disant « on est loin de la ville, on est loin de Besançon, loin de là où c'est un peu plus facile ». Et on a toujours trouvé des excuses à un moment donné pour pas y aller, quoi. Mais plutôt en décourageant, pas en disant que c'était une très mauvaise idée, parce qu'au fond de nous, on était largement convaincus, mais c'était plutôt de passer au fer, quoi. Et puis à un moment donné, c'était tellement, elle revenait tellement à la charge. Et à un moment donné, voilà, il y a eu une discussion où nous, on a été mis en face de nos contradictions, c'est-à-dire qu'on a toujours élevé nos gamins dans cette logique de se dire, faut y aller, quoi. Il faut pas que causer, il faut mettre en œuvre les choses, quoi. Et puis là, on était pris à notre propre jeu. Donc à un moment donné, on pouvait pas reculer, quoi. On pouvait pas dire non. à ça. Après, voilà, on a mis un cadre, après, parce qu'au début, c'était sur de la débrouille ou des choses pas très cadrées. Et nous, on a dit, voilà, il faut que ça soit cadré par des gens qui savent accueillir, qui connaissent les lois, les règles, les démarches. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on s'est très vite retrouvé avec la pastorale à Besançon, la pastorale des migrants. C'est plutôt mis en tant que maillon dans un gros collectif, on va dire. Donc là-dessus, le cadre était très vite fixé pour Pia et pour nous, d'ailleurs, pour tous les accueillants. Parce que après, la difficulté pour quelqu'un comme Pia, c'était aussi de... Tout part d'une bonne intention, mais c'est comme sur la toile et sur Internet, il y a plein de bonnes choses, mais aussi il y a plein de choses difficiles. Et donc c'était plutôt cadré ce qu'il pouvait y avoir comme dérive. C'est une jeune ado, et donc voilà, ça, elle peut être utilisée pour des fins, voilà, par des adultes, des étrangers adultes. Voilà, il y a des relations qu'on a volontairement demandé d'arrêter, quoi, très, très clairement.
Des relations qui lui ont demandé trop ?
Oui, qu'elle allait beaucoup trop loin. D'accord. Beaucoup trop loin pour son âge, quoi. Nous, on a senti un danger par rapport à ça, à un moment donné. Des demandes qui se faisaient de rencontres, plutôt, voilà, des lieux et des endroits qui nous semblaient trop chaud, quoi. Pour nous, c'était plus de l'aide, en tout cas, de l'accueil d'urgence ou de l'aide, ça devenait autre chose, quoi. En tout cas, ça sous-entendait autre chose.
Qu'est-ce que t'en penses, Pia? Que tes parents...
Des fois, ils font toujours trop, c'est vraiment des parents poules ou... Non, mais... Ça a été sujet à beaucoup de clivages entre nous parce que eux ils voient toujours le danger et je sais faire la différence.
T'as le sentiment que tes parents encadrent un peu trop ou surveillent trop ta mobilisation?
Bah, pas qu'ils encadrent trop, ils m'espionnent partout sur mon téléphone, ils regardent les messages. J'ai même plus de vie privée quand même. Ils ont tous mes codes Facebook, ça regarde toutes mes discussions. Et puis, comment je peux avoir une vie intime là-dedans? Et arrête de dire c'est pas vrai. La fois où je t'ai vu dans ma chambre sur mon téléphone, tu peux pas dire que c'était pas vrai.
Enfin, pour nous, c'était la question. Ouais, là, on a déjà parlé avec elle, c'est pas un souci. Mais pour nous, elle pointe le doigt sur quelque chose. Et effectivement, c'est quelle est la limite entre les garde-fous et puis aller dans l'intimité. Et nous, ça a été, en tant que parents, ça a été une sacrée question pour, et ça l'est toujours d'ailleurs. Nous, en tant qu'adultes, je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour nous en tant qu'adultes que pour les enfants.
Bah, d'une manière ou d'une autre, je comprends.
On entend bien là les inquiétudes un peu universelles du père de Pia. C'est un papa qui est fier de l'engagement de sa fille, bien sûr, mais aussi un peu inquiet, forcément, comme tout parent, des mauvaises influences dont sa fille pourrait être victime, et ce, quelle que soit leur origine.
En tout cas, Cerise, elle a une sacrée détermination, cette jeune Pia. Toi, Bitou, tu as 18 ans, tu viens du Bangladesh, et l'an dernier, au lycée, tu as participé à un projet qui vise à sensibiliser les élèves sur les droits de l'homme. Et cette initiative, elle s'appelle Simule ONU. Alors, concrètement, c'est, on peut dire, un grand jeu de rôle où les élèves se glissent dans la peau d'ambassadeurs des pays membres des Nations Unies et ils organisent une assemblée générale un peu pour de faux. Alors, en 2016, quand toi, tu as participé à Simule ONU, le thème, c'était les migrations climatiques. Et justement, toi, Mitou, tu viens donc du Bangladesh. Comment ton pays est affecté par le réchauffement climatique?
Alors, dans mon pays, il y a beaucoup de problèmes de réchauffement climatique. Surtout, c'est l'inondation.
Les inondations parce que le fleuve Padma,
oui,
il y a beaucoup de crues qui engloutissent des villages au bord de ce fleuve.
Oui, c'est ça. Par exemple, le village de mon père, ça n'existe plus maintenant parce que à cause de la
montée des eaux.
Oui, c'est ça. Et ça.
Il a entièrement disparu.
Il a entièrement disparu.
Toi, tu l'as connu, ce village, Mitou?
Non, j'ai pas connu parce que c'était déjà parti.
Avant ta naissance?
Avant mon naissance, mais j'étais à la maison de mes grands-parents. Ils ont hébergé dans un autre petit village à côté de cette fleuve. Et je suis partie là-bas et ma mamie m'a raconté cette histoire, que c'était comme ça, cette village était comme ça. Mais pour l'instant, ça n'existe plus.
Qu'est-ce que tu ressens, toi, vis-à-vis de cette histoire familiale?
Moi, je me sentais très mal. Ça m'a, c'était triste quand même parce que c'est une ville où mes parents, mon père, il a grandi. En fait, j'ai pensé tout de suite ça, que comme ça commence à disparaître une par une village, peut-être un jour, mon pays, ça va être tout disparaître.
Et c'est des villages qui disparaissent parfois très vite, parfois les villageois se réveillent.
Oui.
Et en une nuit, oui. Il y a des bouts de villages qui se sont effondrés.
Oui, c'est ça. Ça, peut-être 24 heures, c'est fini, moitié du village. Ils doivent partir ailleurs. Par exemple, il y a beaucoup de villageois qui viennent en capitale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde en capitale dans notre pays. Après, il y a des gens qui partent ailleurs, qui partent
à l'étranger.
À l'étranger. Après, il y a à côté de, en Inde ou en Bhoutan, Myanmar.
En Bhoutan.
Oui, c'est ça.
Et en Birmanie.
Oui, c'est ça.
Et il y a beaucoup de Bangladais qu'on peut appeler des réfugiés climatiques.
Oui.
Avec cette expérience, en tout cas, simule ONU, est-ce que tu as pris conscience, MeToo, que d'autres pays sont aussi touchés par le réchauffement climatique, un peu comme le tien?
Oui, grâce à ce projet, ça m'a touchée parce que au début, je pensais que c'était que, en fait, il y a un problème de climatique que chez nous, parce que je savais pas grand-chose de monde. Grâce à ce projet, j'ai appris, j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai appris.
Tu as appris des choses sur d'autres pays.
D'autres pays.
Comment d'autres pays sont impactés par le réchauffement climatique.
C'est ça. Et après, j'ai appris une chose, qu'on ne peut pas faire tout toute seule. Et on doit être amitié avec les autres.
Les autres pays.
Les autres pays, oui. Par exemple, chez nous, Bangladesh, ils sont amis avec l'Inde, Pakistan. Mais je pense que c'est juste pour parole, en fait. Mais en vrai... ça marche pas comme ça. Parce que entre l'Inde et Bangladesh, il y a une
rivière,
oui, un barrage, voilà.
Le barrage Faraka.
Oui, barrage Faraka. Par exemple, en hiver, ça se ferme. Il se ferme, ça. Et le barrage, ça ferme.
C'est l'Inde qui décide de fermer le barrage.
Ça. Oui, c'est ça. Et après, quand il y a l'été, quand on a besoin de l'eau, et ben, ça, ils ouvrent ça. Et après, dans notre pays, il y a l'eau, ça monte, ça, petit à petit, ça augmente. Et c'est comme ça, ça crée l'inondation. Même en capitale aussi, maintenant, en ce moment, dans le capitale, il y a des petits quartiers qui sont
inondés.
Voilà.
En tout cas, tu as compris que c'est qu'avec la coopération internationale qu'on pourrait sortir du coup de cette impasse. Est-ce que cette expérience simule ONU, ça t'a donné envie de t'engager plus tard sur ces questions de protection de l'environnement?
Oui, bien sûr.
Tu sais déjà de quelle manière?
Non.
Non?
Par exemple, est-ce que tu fais attention chaque jour à moins polluer ou à moins consommer d'énergie?
Oui, en fait ça c'est vraiment important pour tout le monde. Parce que dans mon pays, des gens, on ne pense pas ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment différent d'un pays, c'est pas comme l'Europe. Ici, il faut qu'on marche dans la rue ou qu'on... Il faut pas que ça salit.
Ne pas jeter les détritus par terre.
Oui, voilà. Ici, en France, c'est bien organisé. Mais dans mon pays, non, pas du tout. Parce que c'est... par exemple, les produits, ils jettent direct à la fleuve et tout. Et c'est pour ça, dans le capital, le Seine qui est entre Dakar, l'eau, elle est vraiment pourrie.
L'eau qui est accessible dans la capitale Dakar,
oui.
Elle est pourrie, c'est-à-dire ce n'est pas possible de la boire.
De le boire, oui. Et même si c'est vous douchez avec ça, vous pouvez avoir des boutons, des maladies, par exemple des maladies comme cancer aussi. C'est vraiment difficile. Enfin, c'est vraiment
dangereux.
Ouais.
Parce que cette eau est très polluée.
Oui, c'est ça.
Je sais que le jour viendra où le vent se lèvera. Et nous serons des milliers. La nuit vous étranglera. Et sur vos corps allongés, les roses viendront pousser. Vous vous souviendrez de moi au moment de votre souffle dernier. Vous vous souviendrez du jour où vous avez mis ma tête. Vous reviendrez peut-être, mais le monde vous aura vite oublié. Car il se souviendra de nous si l'histoire ne nous a pas effacés. Je ne suis plus là pour témoigner, mais les roses blanches ont poussé. Les idiots ne l'emportent jamais. Et le ciel.
Aujourd'hui c'est moi qui tombe, je rejoins l'armée des ombres, mais demain je reviendrai. J'irai danser sur vos tombes, juste après la pluie qui tombe, l'herbe viendra repousser. Vous vous souviendrez de moi.
De Mickey 3D sur RFI, c'est le choix musical de la jeune militante Pia dans Le Monde est à nous, l'émission qui donne la parole aux jeunes chaque dimanche de l'été. Allons enfants, de l'empathie ce soir, on s'engage pour demain sur RFI.
Est-ce que le monde est à nous ?
Le monde est à nous.
Il n'y a personne d'autre qu'à nous, à nous seuls.
Le monde est à nous, s'engager pour demain, c'est le thème d'aujourd'hui sur RFI. Et comme chaque dimanche, les dernières minutes de l'émission sont consacrées à notre expert. On vous explique le concept. Un des deux jeunes de l'émission interviewe un adulte de son choix, qui l'inspire ou qui l'admire, pour lui demander des conseils. Et aujourd'hui, c'est Mitou, notre jeune invité engagé, originaire du Bangladesh, qui rencontre l'avocat Vincent Fiola avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour Cerise, bonjour Mitou.
Vous êtes venu sans la robe d'avocat, mais votre spécialité, c'est le pénal. Vous avez aussi cofondé l'École des droits de l'homme, et c'est cette association qui organise chaque année, avec des dizaines de lycées, le projet SimulONU, auquel MeToo, tu as participé. Donc tous les deux, vous vous connaissez, et MeToo profite de ses retrouvailles en studio pour vous poser quelques questions.
Je vous connaissais déjà, mais j'ai des petites questions pour vous. C'est quoi l'École des droits de l'homme pour vous ?
Alors, c'est quoi l'École des droits de l'homme ? C'est une association qui, à l'origine, a été fondée à Toulouse, à l'initiative de Maître François Cantier, qui est avocat également, et qui est le fondateur d'Avocats sans frontières France. Et c'est une association qui a pour but, comme tu as pu le voir, MeToo, d'aller au contact des jeunes, comme toi, dans les collèges et dans les lycées, pour leur donner accès, les éveiller, à la culture des droits de l'homme. Et les projets qu'on porte avec cette association, ça peut être des simulations ONU comme ce à quoi tu as participé, mais ça peut être d'autres choses également, ça peut être des simulations de procès ou autre chose. Et nos objectifs, avant de vous transmettre un savoir, c'est de vous transmettre le goût de stimuler votre goût de l'engagement et votre volonté de vous engager, et votre volonté de, non pas de savoir, mais de savoir-faire également. Je t'écoutais tout à l'heure m'expliquer que ce qui t'avait le plus frappé dans l'exercice auquel tu as participé, c'est que tu avais compris que quand il y a un problème global, eh ben il faut tendre la main aux autres, il faut créer des liens d'amitié, notamment avec les autres pays, pour trouver des solutions ensemble. Et ça veut dire apprendre à s'écouter, apprendre à comprendre quels sont les intérêts de chacun, et essayer de trouver des solutions en commun. On a un leitmotiv dans cette association, qui est une phrase de Gambetta, qui disait que l'avenir n'est interdit à personne. D'où qu'on vienne, qui qu'on soit, quelle que soit son origine sociale, ses études, on peut, dans la vie, devenir ce qu'on veut, dès lors qu'on s'en donne les moyens, et dès lors qu'on est entouré pour le faire. Et c'est aussi montrer à ces jeunes que la diplomatie, le droit, les grandes enceintes internationales, ça leur est pas bouché s'ils ont envie d'y arriver un jour.
J'aimerais bien savoir, moi, comme j'ai envie d'aider les gens aussi, comment je peux être utile.
Alors, comment être utile ? Tu poses merveilleusement la question, MeToo, et ça démontre un bel état d'esprit. Intervenir dans le champ des droits de l'homme, c'est pas se faire plaisir, c'est pas être utile à soi-même, c'est pas courir après la lumière ou courir après l'argent. Comment être utile ? C'est une bonne question, je peux pas répondre de manière générale à cette question, je peux pas te dire comment toi tu pourrais être utile. Ce que je peux te dire, c'est que dans la vie, pour être utile, et notamment dans le champ du droit et pour lutter contre les injustices, le mieux avant toute chose, c'est d'apprendre à savoir faire quelque chose, d'avoir une compétence. On l'apprend à l'école, on l'apprend à l'université, on l'apprend par d'autres voies d'ailleurs parfois. Mais dès lors qu'on sait faire quelque chose, on peut le mettre à disposition des autres. Moi par exemple, j'ai eu cette chance inouïe d'avoir la possibilité d'aller à l'école et à l'université et d'apprendre le droit. Ce droit aujourd'hui, il me permet de vivre, il me permet de gagner ma vie, mais il me permet aussi de me rendre utile. Il me permet parfois aussi d'utiliser cette compétence que j'ai acquise pour la mettre au service des autres, pour la mettre au service des plus démunis, pour la mettre au service des migrants qui en ont besoin actuellement. Et je sais que c'est un sujet qui t'intéresse et on y viendra tout à l'heure. Donc la première chose à faire pour savoir comment se rendre utile, c'est savoir qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je peux mettre à disposition des autres. Pour aider les migrants qui sont arrivés dans notre pays, après des parcours d'exil pour certains effroyables et toujours très difficiles, on n'est jamais plus efficace, et tu le sais, Mintou, puisque tu l'as formulé toi-même, quand on n'agit pas seul. Donc la première chose à faire pour se rendre utile, c'est d'aller enquêter un peu, savoir qui intervient, qui est déjà là pour aider ces gens, est-ce qu'il y a des associations qui sont déjà créées, et puis se rapprocher d'eux. Notamment sur Paris, je sais que tu habites sur Paris, il y a des associations qui viennent en aide aux migrants, je pense par exemple au BAM, qui est une association formidable, qui œuvre tous les jours pour ceux qui sont vraiment dans des situations très très inconfortable. On les trouve à Stalingrad, on les trouve à Jaurès, voilà, là où on voit les migrants, on les voit, hein, ils sont pas cachés. Hein. L'association du DAL aussi, le droit au logement, qui vient en aide actuellement aux migrants. Voilà, la première chose, c'est vraiment de ne jamais agir seul et toujours essayer de fédérer autour de soi ou de se rapprocher de ceux qui interviennent déjà. On entendait tout à l'heure Pia. Pia, elle a regardé, elle l'a dit, elle a fait passer un questionnaire dans son village, parce qu'il n'y avait pas d'autre initiative, elle était la première à vouloir le lancer, mais elle a compris tout de suite qu'elle pouvait pas le faire toute seule. Et qu'il fallait d'abord aller autour de soi, tendre la main aux autres et avancer ensemble, parce que voilà, on a des bien meilleurs résultats quand on est nombreux. Mmh. Et un dernier conseil que je peux te donner, c'est de ne jamais te décourager. C'est très décourageant. La lutte contre les injustices sociales, c'est très décourageant parce qu'on n'a pas souvent des résultats tout de suite. Et on n'a pas toujours les résultats parfaits. C'est le combat petit pas par petit pas. Et faire un petit pas dans le bon sens, c'est déjà énorme pour les autres. Et parfois on a du mal à s'en rendre compte, alors on se décourage un peu, ça aille pas assez vite. Mais voilà, il faut savoir être patient et il faut savoir prendre les bonnes nouvelles au fur et à mesure où elles viennent.
Mitou, est-ce que tu peux poser ta dernière question ?
Oui, moi je viens de Bangladesh où il n'y a pas beaucoup de liberté d'expression. Je voudrais savoir comment c'est en France ?
C'est une question piège, MeToo. Par principe, je crois qu'il faut savoir être honnête et pas toujours être dans la contestation un peu futile. On a la chance en France d'avoir un droit et une jurisprudence qui sont très protecteurs en matière d'expression, que ce soit en matière d'expression ou d'accès à l'information, parce que les deux sont les deux libertés, la liberté d'informer et d'être informé, et la liberté de s'exprimer sont intimement liées. Et on a une chance inouïe en France, c'est qu'on a réussi à gagner ces libertés-là et à les préserver autant que faire se peut. Maintenant, le combat pour les acquis sociaux, il s'arrête pas à partir du moment où on a gagné une liberté. Il est constant, il est tous les jours. Et tous les jours, il faut être vigilant à ce que la liberté qu'on a gagnée, on soit pas en train de la perdre. Je suis pas en train de dire qu'on a perdu la liberté d'expression en France. En revanche, je pense qu'on traverse une période où il faut être particulièrement vigilant. Et où les atteintes à la liberté d'expression et au droit à l'information, elles viennent de toutes parts. Elles viennent parce qu'on est un pays qui est tiraillé par la peur, notamment par la peur de voir monter les populismes et les extrémismes dans ce pays, et que donc on a parfois tendance à vouloir taire des choses que l'on pense parce qu'on a peur de la réaction que ça pourrait provoquer chez nos concitoyens. Je pense aux migrants notamment. On se tait un peu trop sur les conditions pas à la hauteur qu'on leur propose pour les accueillir, parce que la France, que ce soit bien clair, n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait faire sur la question des migrants. Et on a l'impression qu'on n'ose pas le dire plus que ça, parce qu'on a peur que le dire, ça soit faire monter les extrémismes dans ce pays. Moi, je pense que c'est faux. Et je pense qu'au contraire, plus on le dit et plus on fédère. Et je pense que les Français sont bien plus hospitaliers, ont beaucoup plus de cœur que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et puis, au-delà, c'est vrai que parfois, il y a des sujets qui sont difficiles à aborder dans la presse, des sujets qui sont tabous, des sujets sur lesquels il y a une omerta. Et ça, il faut avoir le courage de toujours dire les choses et de s'ériger quand on nous empêche de les dire. Voilà.
Quel tabou, par exemple ?
Il y a des sujets qu'il est plus difficile que d'autres à aborder. Par exemple, il y a des pays amis de la France, qui sont des pays qui sont des démocraties, hein, je le conteste pas, mais dans lesquels les droits de l'homme, parfois, ou les standards des droits de l'homme tels qu'on les conçoit nous en France, ne sont pas respectés. Et on s'interdit, ou on est interdit d'en parler en France, parce que on a des longues amitiés avec ces États et qu'au nom de du maintien de nos relations diplomatiques, eh ben, on nous demande instamment de nous taire, et ça, je pense que c'est pas tolérable. Le sujet du nucléaire est un sujet sur lequel il est très difficile pour, ben, vous le savez mieux que moi, vous êtes journaliste, c'est votre profession d'informer, et vous savez très bien qu'il est parfois difficile d'aborder ces questions ou de faire des véritables enquêtes d'investigation sur des sujets sur lesquels l'opacité règne.
Merci Mitou d'être venu jusqu'à nous et surtout joyeux anniversaire puisque tu auras 19 ans demain et bonnes vacances puisque tu pars à Nice.
Merci à vous de m'inviter et de me découvrir ce projet. J'ai appris beaucoup de choses.
Merci à toi.
Merci à vous.
Et merci aussi à Maître Vincent Fiola de l'École des droits de l'homme pour votre expertise engagée. Et merci bien sûr à Jérémy Bessé pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions, les photos des jeunes et les liens internet sur notre page Le Monde est à nous sur RFI.fr ainsi que nos réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, avec Chérine, 19 ans, Hervé, 17 ans et Reda, 18 ans. Nous parlerons d'une question essentielle, comment vivre libre, libre de porter une jupe, comme libre de ne pas être harcelé par la police. Voilà, c'était quelques indices. D'ici là, gardez vos sens en éveil, défendez votre droit à un été reposant et joyeux. Salut à tous,
à la semaine prochaine.